une coopérative avec plus de 40 ans d'expertise en télécom. Soumission gratuite au ccapcable.com.
C'est une grosse journée, jeudi. C'est une grosse journée. Vous vous dites, voyons, c'est à Saint-Valentin. Non, non, Saint-Valentin, c'est passé, tout ça. Une grande et grosse journée, jeudi 26 février. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du plaisir et tu vas être généreux en même temps. Et si je te dis plaisir et générosité, c'est sûr, tu penses à la fromagerie Victoria, ben moi aussi. Puis c'est grâce à eux, encore une fois, parce que une bouchée qui fait la différence, c'est chez Fromagerie Victoria. Jeudi, c'est une poutine pour un don. Donc, dans les succursales de la région de Québec, Donnacona, Lévis, Saint-Nicolas, Laurier Station, 2 $, oui, 2 $ par poutine vendue seront remis à Télécoute Convergence et Télaide Québec. Ce sont des services qui sont gratuits, qui sont confidentiels. C'est vraiment une écoute active, bienveillante pour toutes les personnes qui vivent avec des moments difficiles, de la solitude. Et on décide de mener à terme, pour cette journée-là, un genre de une grosse récolte de dons, mais en même temps en vous gâtant, vous, les clients. Donc, chaque poutine va permettre de soutenir une équipe de bénévoles qui sont formés à l'écoute active, à la prévention du suicide aussi, et qui aident les appelants à ventiler leurs émotions, à trouver en eux-mêmes des ressources qu'ils disposent. Alors, pour soutenir la cause, c'est super simple. Tu savoures la meilleure poutine qui déborde de fromage en grains, qui est faite à 100 % de lait entier et qui provient directement des fermes d'ici dans 5 succulents poutine avec 5 succulentes sauces. Finalement, je sais que tu as l'eau à la bouche. Vas-y aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais retourne-y jeudi parce que chaque geste compte, une poutine à la fois. Dans les fromageries Victoria, jeudi cette semaine, on serre les coudes pour Télécoute Convergence et Télaide Québec.
On en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission On en jase. La meilleure façon de s'informer sur ce qui se passe à Québec, au Québec, en politique, également en sport. Durant les derniers Jeux olympiques, on a suivi avec attention tous les médaillés et les matchs du Canada en hockey masculin, les matchs en hockey féminin. Également, à la météo, c'est moins 7 degrés présentement, c'est généralement ensoleillé. Demain, moins 8 degrés avec de la neige. On parle d'une accumulation de 2 cm par endroit. Et de la neige également pour jeudi avec moins 2 degrés. On en entend parler depuis énormément de temps. Le moratoire à Lévis sur les constructions, environ les 2/3 de la ville, les entrepreneurs ne peuvent plus construire. Et là, voilà qu'il y a des poursuites judiciaires qui devraient s'entamer contre la ville de Lévis. Les gens tenteraient d'aller chercher un montant quand même assez important de 30 millions de dollars. Et pour en parler avec nous, on a Benoît Forget-Giasson, conseiller du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10, le parti politique qui était au pouvoir lorsque le moratoire a été enclenché. Monsieur Forget-Giasson, merci beaucoup pour votre disponibilité ce midi.
Merci de nous recevoir, M. Fortin.
Ça fait plaisir. M. Forget-Giasson, est-ce qu'on avoue enfin que Gilles Lehoulier a mal géré le développement à Lévis pour en arriver là?
Je pense pas que de dire là, que M. Lehoulier a pu mal gérer là, serait avisé de ma part. Moi, je pense qu'il y a eu un développement là, rapide qui a eu lieu à Lévis. On en est très heureux, évidemment. Ça nous a permis de développer la ville, pas seulement d'un point de vue immobilier, mais de ces nombreux parcs, hein, c'est 250 parcs à Lévis, espaces verts, c'est pratiquement, je parlerai pas de record parce qu'on parle pas de palmarès, mais c'est une qualité de vie à Lévis qui s'est développée à travers les années. Et puis là, ben, c'est certain qu'aujourd'hui, on fait face à des défis en lien avec le réseau routier, les eaux usées, etc. Donc, on adresse ça, là, depuis 2024 avec le moratoire. Mais, c'est un leg avec beaucoup de bons coups qui a été fait dans les dernières années. Puis maintenant, bien, on regarde en avant et on s'assure de développer la ville intelligemment.
Oui, je sais qu'on veut regarder en avant, mais quand même, mon collègue Olivier Lemieux de Radio-Canada fait un excellent travail. Et puis là, on sait qu'en 2021, l'administration a été avisée que l'usine allait devenir justement à pleine capacité, l'usine de traitement des eaux. En 2024, on a eu le directeur des affaires juridiques, Simon Roberge-Vallière, qui dit à la ville de Lévis qu'on ne pouvait plus développer, qu'on était à pleine capacité. Donc, moi, je ne peux pas faire autrement que voir du laxisme du côté de Lévis Force 10.
Je comprends. Merci pour la chronologie des événements. Là,
ça fait plaisir.
En 2020... en 2024, là, la vie juridique nous avait été adressée de ce qu'on comprend, qui a été rendu public là, dans les dernières heures. Heureusement, bien, le moratoire a été mis en place, d'ailleurs appuyé par les par les collègues de Repensons Lévis à ce moment-là. Donc, c'était unanime à Lévis de mettre en place ce moratoire-là. Et puis, c'est l'outil, c'est un outil très, très intéressant dont on dispose actuellement. Et ce que les gens nous demandent, c'est de prendre un pas de recul sur le développement à Lévis et puis de le planifier. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On prend le temps. Le moratoire est un passage obligé qui n'est pas sans difficulté, vous comprendrez. Par contre, ben, c'est des mois et des années, là, peut-être deux à trois années devant nous qui vont nous permettre de revoir notre schéma d'aménagement, revoir les hauteurs, revoir les zonages à certains endroits de la ville. Et c'est ce que les gens s'attendent de nous. Donc moi, comme conseiller de Saint-Rédempteur et membre du comité exécutif, ben, je vais avoir l'opportunité de collaborer avec la direction générale, la direction de l'urbanisme, à faire en sorte que notre ville se développe comme les citoyens peuvent l'espérer, c'est-à-dire harmonieusement avec les usines d'eau. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a les services de sport et loisirs pour les familles. Il y a les routes, évidemment, routes des rivières, la 20 qui fait SOS à Lévis. Il y a beaucoup de choses là, qui sont derrière, qui vont permettre d'être adressées pendant le moratoire. Et je pense qu'il faut le voir de cette façon-là, plutôt que de peut-être remettre en cause ce qui a pu être fait par le passé.
Il y a des gens qui vivaient à Lévis à ce moment-là, qui ont pas mal fait état de certaines choses qui les déplaisaient. Mais il y a des gens qui se réveillent puis qui voient les nouvelles en ce moment, qui font « Mais voyons donc, pourquoi est-ce qu'on n'avait aucune idée? » Est-ce que c'était caché?
Écoutez, moi, j'ai été élu en novembre dernier. Donc, je pourrais pas parler au nom de mes collègues là, qui étaient là par le passé. J'ai confiance en les gens qui étaient qui ont reçu des informations par le passé, que ce soit le maire ou les membres du comité exécutif. Il y a certaines décisions, il faut comprendre que dans une ville, il y a certaines décisions qui restent à la hauteur du maire, d'autres qui vont au comité exécutif, donc qui passent par le conseil de ville. Ça dépend des décisions. Si le comité exécutif, à ce moment-là, a cru bon là, que l'information qui était importante à être partagée le soit ou non, ben faut en prendre acte, évidemment. Mais moi, de ce que je comprends, par le passé, ce qui a été pris comme décision, ben aujourd'hui, ça nous permet de prendre le temps de pause que les citoyens demandent en lien avec le moratoire. Et il ne faut pas passer sous silence aussi que dès 2021, l'administration des Forces 10 avait déjà débuté des investissements en ce qui a trait les usines d'eau et le traitement des eaux usées. Donc, il faut quand même s'assurer que les citoyens de Lévis le sachent, là. Que les actions avaient été entreprises dès 2021 dans ce sens-là. Et là, sont en vitesse grand V. Là, on accélère ces investissements-là en ce moment, là, pour plus de 500 millions. C'est beaucoup de sous.
C'est sûr que quand on se fait dire en 2021 que l'usine est full, t'as comme pas le choix d'investir. Là, on s'est fait mis devant le fait accompli. Mais concentrons-nous sur le présent et le futur comme vous voulez qu'on le fasse pour les 2-3 prochaines minutes. Craignez-vous que la ville perde en cours, soit obligé de donner 30 millions de dollars et fasse des coupures drastiques? Parce que je regarde au dernier budget, un autre beau cadeau de Gilles Lehaulier, 13,9 millions de trous budgétaires. Et là, on est obligé de fermer des patinoires extérieures. On est obligé de diminuer dans notre plan d'infrastructure. On est obligé de mettre en pause le paiement comptant sur la dette. C'est vraiment là, des impacts non négligeables pour la ville de Lévis.
Oui. Donc, c'est certain là, que d'un point de vue financier, il n'y a pas d'impact direct du moratoire actuellement. Là. C'est les habitations, là, on parle de 2000 par année en 25, en 26, en 27. C'est des permis qui avaient déjà été octroyés. Donc, les revenus de la ville là, en ce qui a trait à ce développement-là n'est pas impacté actuellement.
Oui, n'empêche qu'avec l'avis juridique de Simon Roberge-Vallière, le directeur des affaires juridiques, en 2024, mettre sur pause des permis qui avaient été accordés pour 25, 26, 27, vous risquez de payer les villes en justice.
Ouais, comme vous l'avez dit, là, comme c'est des dossiers qui sont judiciarisés en ce moment, je vais me garder de commenter là, les dossiers qui pourraient se retrouver devant la cour. C'est certain que notre rôle d'élu, ben, c'est d'avoir un œil aguerri, un œil averti, je veux dire, sur le dossier. S'il y a des sommes à mettre dans les prochains mois, prochaines années, dans une réserve en vue de potentiels règlements judiciaires, on a ce rôle-là à jouer. La Ville, depuis les dernières années, comme vous avez fait référence au règne de M. Lehaulier, avait des surplus, des réserves qui se sont remplouées pendant chacune de ces années-là. Donc, c'est des sommes là, qui, au besoin, pourraient être utilisées là, s'il y a des règlements à intervenir avec des promoteurs. Donc, j'ai confiance qu'on sera en mesure de boucler d'éventuels budgets dans ce sens-là. Puis on a déjà commencé, comme vous l'avez dit, avant Noël, à réduire des dépenses. Les citoyens nous demandaient ça aussi. On le fait actuellement. Donc, on réduit certaines dépenses. De notre côté, les Forces 10, on parle de diversification de revenus, d'utilisateurs-payeurs. On attend des nouvelles de l'administration du maire Blainey à ce sujet-là. On aimerait pouvoir diversifier nos revenus autrement que taxer les citoyens et compter uniquement sur la levée du moratoire. On parle d'une équipe ici du maire qui, aujourd'hui, au conseil de ville, va déposer là, un projet de un avis de proposition dans une idée de levée sélective du moratoire. Moi, ça m'inquiète. Okay? Les citoyens ne s'attendent pas à une levée du moratoire en 2026. Si on attend la levée du moratoire seulement comme une nouvelle source de revenus, ben, je ne pense pas que ce soit la meilleure avenue, car on a besoin de prendre le temps de penser à notre développement et le lever trop rapidement, comme certains le voudraient, ben, c'est se mettre à risque de retomber dans le même problème dans 2, 3 ou 4 ans. Donc, on n'est pas pour ça.
Il y a des nouvelles qui sortent encore, comme quoi la ville avait été probablement mise au courant, qu'il allait avoir des poursuites. Ça vient de sortir sur Radio-Canada dans les dernières minutes. Mais méchant début de mandat pour Stephen Blainey. Comment est-ce qu'on s'en sort pour la suite des choses pour M. Blainey à ramasser des pots cassés comme ça?
La question se pose à M. Blainey. écoutez, moi, je suis conseiller de mon district. Je suis membre du comité exécutif. Donc, beaucoup de dossiers qui sont sur sur la table à dessin. On travaille fort actuellement. Moi, j'offre mon soutien à l'administration Blainey pour collaborer, être proactif pour trouver des solutions à tout ça. Mais c'est certain que le maire en campagne s'est engagé à lever le moratoire rapidement. En même temps, ne pas hausser les taxes des citoyens. Moi, ce que j'entends, c'est que lever le moratoire rapidement ou le lever de manière sélective, c'est ce qui est proposé ce soir au Conseil de ville. Ben, une levée sélective du moratoire, ce que ça veut dire, c'est prioriser des dossiers de manière arbitraire de certains promoteurs. Je vois mal de cette manière-là comment ça pourrait se faire de façon réaliste. Donc, de notre côté, on voit le moratoire comme une opportunité en or de revoir notre développement et ça va se faire en collaboration avec nos promoteurs parce que ce seront eux les artisans avec notre direction de l'urbanisme pour revoir le développement de notre ville. Et c'est ce que les citoyens nous demandent de faire.
Benoît Forget-Giasson est conseiller du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce midi.
Merci à vous.
Merci, au plaisir. C'était Benoît Forget-Giasson. Bon, c'est sûr qu'on défend corps et âme les décisions de Gilles Lehoulier dans le dossier. Mais ce qu'on se rend compte, là, évidemment, c'est que la ville de Lévis s'est fait laisser dans un très mauvais état. Trou budgétaire de 13,9 millions de dollars. Dette de 656 millions de dollars. Ça correspond à tout près de 160% du budget de la ville de Lévis. Et là, ce moratoire-là qui pourrait coûter 30 millions en poursuite. Donc, quand on me parle, Pascal, d'une opportunité de faire mieux, on aurait pu décider de faire mieux avant ça.
On aurait dû. Même si on avait la possibilité de décider, il me semble que la voie à prendre, c'était de faire bien et non mieux par la suite. Mais c'est sûr que, bon, j'ai pensé à Mme Isabelle Demers aussi qui se présentait pour reprendre la suite de M. Lehoulier. Ouais. Je ne sais pas si aujourd'hui elle se dit, oh, moi, je l'ai échappé belle.
Ouais, finalement, je suis bien.
Je suis bien.
J'ai une grand-maman, là, j'ai des petits-enfants, puis savez-vous quoi, ça fait bien mon bonheur.
Parce qu'elle se disait prête, rappelle-toi, là, sur le site de Lévis Force 10, parce que c'est l'ancien parti de M. Lehoulier. Donc, on parle à quelqu'un qui fait partie de cette ancienne formation, qui était à la tête de la ville. Elle disait prête pour un autre mandat afin d'accompagner la population lévisienne à se réaliser pleinement.
Oui, c'est ça. Donc,
Mais M. Blainey en a sur les épaules.
Ben oui.
Comme
puis honnêtement, c'est rare que je dis ça, mais lui, c'est vraiment pas de sa faute, là. Il se fait laisser devant un fait accompli où il n'y avait pas toutes les informations pour connaître l'ampleur de la situation.
Probablement qu'il répondrait jamais. Oui, il répondrait « Non, je ne regrette rien », comme la chanson de m'être présenté puis de finalement être à la tête de la ville de Lévis. Par contre, je ne sais pas à quel point tu es content de ramasser tout ça. Puis c'est peut-être le début de quelque chose aussi. Il y a peut-être plein de choses qui vont sortir des cracks.
Exactement.
Puis là, on réfléchit ensemble à voix haute. Mais quand même, pour un homme qui avait déjà été en politique, qui aurait pu se retirer un moment, pour les Lévisiens aussi, c'est pas facile parce qu'on est en train d'être un peu le 10-30 de Montréal, mm-hmm. Mais du côté de Lévis, c'était pas mal ça, c'est le 10-30 de Québec. On était presque en train de prendre de l'avance dans les prochaines années sur notre développement personnel ici à Québec, dans le sens où ça grouillait. Là.
Ah, exactement.
Là, on a des embûches.
Trouvez-vous que le maire Leouli a fait un bon travail? 418-971-1021, oui ou non?
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Pascal, en attente de notre entrevue avec Denis Poliquin, président de CSIT, qui va poursuivre le gouvernement provincial pour 50 millions de dollars dans le dossier du tramway, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
Triste anniversaire, 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc 4 ans que Vladimir Poutine a envahi le pays de Volodymyr Zelensky. Parlant de Zelensky, il passe aujourd'hui dans un message important dans une vidéo comme quoi l'Union européenne devrait fixer une date pour l'adhésion de son pays au regroupement. Dans la vidéo, il affirme qu'il est important pour eux d'avoir une date claire de leur accession à l'Union européenne parce que, selon lui, Vladimir Poutine va trouver le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en divisant le reste du monde et en divisant l'Europe. Il faut savoir que depuis 2024, la Russie a conquis moins de 1,5% du territoire ukrainien. C'est un rapport du CSIS qui est sorti. Donc, la ligne de front, en gros, stagne en Ukraine. Cette triste anniversaire a mené à une prise de parole également de Mark Carney, comme quoi Ottawa augmente son aide militaire à l'Ukraine 4 ans après l'invasion. Là, on parle de fonds, on parle de véhicules blindés et on parle également d'engagement des troupes canadiennes, des troupes militaires pour la formation des troupes ukrainiennes. Trump va prononcer son discours sur l'état de l'Union ce soir. C'est un discours qui vient un peu après la décision de la Cour suprême. Vous savez, on avait fêté la fin de la collecte des tarifs invalidée par la Cour suprême récemment. Mais Trump, étant Trump, bien, il a imposé une nouvelle surtaxe de 10-15% qui est effective depuis aujourd'hui. Alors, ce sera un discours teinté de toutes ces nouvelles. Élection partielle qui a été remportée hier par le PQ. Chicoutimi revient à la maison. Chicoutimi retourne au Parti québécois. C'était les paroles de Paul Saint-Pierre Plamondon, le leader de la formation. Marie-Carline Laflamme, c'est une ex-vice-rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi qui devient la 7e députée du Parti québécois. Quand même, 4e élection partielle que le PQ remporte depuis 2022. Et la deuxième place au scrutin a réjoui et peut-être surpris Éric Duhaime également. Tramway de Québec, il y a un litige qui pourrait coûter 50 millions de dollars. C'est une entreprise québécoise qui se bat actuellement pour récupérer un important contrat. C'est un contrat qu'on a résilié par le gouvernement Legault, majeur assez, pour le Tramway de Québec. Et ça a été retiré par le gouvernement parce que, bon, on a décidé de faire autre chose tout simplement. Mais l'entreprise, en février 2023, avait décroché le contrat de 56 millions de dollars.
Et justement, on en parle avec Denis Poliquin, président de CSIT. Monsieur Poliquin, merci de votre disponibilité pour l'émission Nageur ce midi.
Bonjour à vous.
Monsieur Poliquin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre situation? Moi, ce que j'en comprends, c'est que vous aviez reçu un contrat de 56 millions de la Ville de Québec pour être le grand cerveau du tramway. Quand le gouvernement s'est mis à reculer sur le projet du tramway, on a tout simplement cancellé votre contrat. Et là, vous vous retrouvez sans contrat alors qu'on vous avait promis 56 millions de dollars. Est-ce que ma compréhension est bonne?
Elle est bonne, avec quelques précisions. Alors, au moment de l'annulation de contrat avec la Ville de Québec, CSIT a été considéré comme étant stratégique pour justement la suite des choses. Alors, le gouvernement du Québec, à ce moment-là, en novembre 2023, a décidé de continuer avec le contrat de CSIT pour le cerveau du Québec. Et puis, cette durée-là, justement, cette extension-là, a duré jusqu'en fin novembre 2024.
Donc, ça veut dire qu'à partir de la fin novembre 2024, là, c'est là que le gouvernement décide de couper le contrat. Est-ce que vous aviez déjà reçu des sommes, par contre, pour le travail effectué?
Oui. Alors, le travail effectué, CSIT a reçu 11 millions de dollars pour les travaux qu'elle a effectués. Ces travaux ont été quand même assez avancés, qui a fait le tiers du contrat au point de vue des livrables. Qui impliquait que le RTC avait accepté, ou a accepté, je devrais dire, toute la conception détaillée du logiciel. CSIT, par la suite, a même pris l'initiative de mettre en place ce logiciel et aujourd'hui, il a 70% des fonctions de ce logiciel de prêt, même avant qu'on commence justement le projet dans sa mouture actuelle.
Et ce logiciel-là, il consiste en quoi exactement?
C'est un logiciel qui assure l'exploitation du tramway. Alors, c'est-à-dire la fluidité du tramway d'être capable d'opérer à travers la ville de Québec a besoin d'une supervision centralisée pour assurer que tous les systèmes qui appuient ce tramway puissent justement se coordonner et d'assurer dans le cas de malfonctionnement d'un de ces sous-systèmes d'être capable de réagir rapidement pour assurer le service aux citoyens de la ville.
Donc, autrement dit, on s'assure de la fiabilité du service. Et ma dernière question, pourquoi le gouvernement a décidé justement de couper ce contrat-là? Parce qu'écoutez, vous avez implanté ça un peu partout dans le monde, donc pourquoi on a décidé que CS Cité, c'était fini?
Bien, c'est le gouvernement du Québec a décidé de retirer le projet globalement de la ville de Québec et de l'assigner plus tard, en 2024, au CDPQ Infra, que lui a créé son propre projet qui s'appelle Tramcité. Alors, étant de donneur d'ordre, le MTMD, le ministère des Transports, a décidé de confier la maîtrise d'œuvre à une autre entité que le CDPQ Infra.
Aussi simple, pas simple que ça, finalement, parce que je vois peut-être dans les commentaires le questionnement de se dire, est-ce que vous êtes payé? Au moment où vous êtes payé, ça devient un problème de contribuables, ça devient un problème d'argent et de gestion d'argent des contribuables. Mais est-ce que vous, ça vous ampute? C'est-tu parce que vous avez travaillé sur le projet puis vous n'avez pas nécessairement mis de la place pour d'autres parce que vous concentriez là-dessus?
C'est le contrat que nous avons reçu de la ville, c'est un contrat sur 10 ans. Et puis, à la fin de cette période-là, alors de février 2023 jusqu'en novembre 2024, nous avions engagé des frais pour justement une durée de 10 ans, c'est-à-dire monter une équipe très spécialisée pour le projet, c'est-à-dire d'investir dans des technologies chez nous pour assurer que le projet soit bien livré, c'est-à-dire à long terme d'avoir pris des engagements auprès des employés de l'équipe pour qu'ils puissent justement être chez nous pendant très longtemps. Alors, il y avait toutes sortes de primes quelconques que nous avions mises en place pour assurer justement un bon dénouement de ce projet.
Vous, M. Paul King, vous êtes une entreprise établie à Montréal?
Oui.
Excellent. Et là, je vois aujourd'hui dans les médias que c'est Kiewit, qui est une compagnie américaine qui a reçu le contrat justement de la Caisse de dépôt et de placement pour le contrat des infrastructures. Est-ce que ça vous fâche de voir que c'est des PQ Infra qui a repris le contrat, fait affaire avec des compagnies américaines plutôt que des compagnies québécoises et canadiennes?
Bien, CDPQ Infra a le choix de monter ses propres modalités pour justement assurer le succès de leur projet. Nous remettons pas ça en question. Ce que nous prétendons, c'est que le sujet justement du cerveau du tramway de Québec, il a justement déjà eu du travail de fait que on pourrait bénéficier, que le MTMD pourrait justement, comme donneur d'ordre, assigner au maître d'œuvre, CDPQ Infra, qu'on soit inclus dans un plus grand contrat qui, justement, inclut la pose de voie, qui inclut tous les systèmes électriques, les grands systèmes électriques, les raccordements d'Hydro-Québec, les grands systèmes mécaniques également. Et puis, il y a un sous-ensemble qui est quand même relativement modeste par ces grands travaux, qui inclut notre sujet. Alors, il serait très simple pour le MTMD de donner l'ordre, comme il l'a fait avec Alstom Transport, parce qu'il y avait un appel d'offres pour Alstom Transport, et ça s'est soldé par un ordre donné par le gouvernement, et il n'y a pas eu d'appel d'offres.
Mm-hmm.
Alors, si on le fait pour Alstom Transport, pourquoi pas pour le faire pour une entreprise québécoise?
Oui, exactement. Dans le fond, on favorise les petits amis. Là. C'est moi qui vais le dire. Je vous le ferai pas dire.
Monsieur... Ben, regardez, moi, en quelque part, c'est pas de favoritisme. C'est de poser la question Mais si on peut le faire pour une grande entreprise internationale, pourquoi pas pour le faire pour une entreprise québécoise qui contribue justement à l'économie locale et qui fait du bon travail à l'externe et qui a déjà fait du très bon travail pour le RTC et la Ville de Québec.
Monsieur Denis Poliquin, président de CSIT. Monsieur Poliquin, on va rester justement en contact parce que je veux savoir comment ça va se régler, ce dossier-là, mais je ne peux pas croire qu'on a décidé de se passer de vos excellents services puis qu'on a payé 11 millions de dollars dans le vide.
Ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui et votre attention.
Fait plaisir. Merci, Monsieur Poliquin. Passez une belle journée. Okay.
Bonne journée à vous.
Merci. Ça n'a pas de sens, Pascal. 11 millions jetés aux poubelles. On a une poursuite de 50 millions. On a une entreprise québécoise qu'on ne fera pas travailler. Puis pendant ce temps-là, on demande à Alstom de faire des wagons puis des rails qu'ils n'ont jamais fait juste parce que ça donne un contrat à Bombardier à la Pocatière.
Oui, je trouve que là, on est en train de peut-être voir comment ça peut se passer parfois dans l'octroi de contrat.
Oui.
Mais assurément, à un moment donné, quand tu as un contrat, quand tu as signé quelque chose, c'est une entente. Puis je comprends l'entreprise de se dire, hey, puis c'est pour ça que je lui ai fait ventiler. C'est quoi les risques pour eux économiques? Parce que je me dis, ben, une fois qu'ils sont payés, peut-être qu'ils peuvent juste prendre un autre projet. Non, il dit, non, c'est sur 10 ans.
C'est
sur 10 ans, puis on est allé employer du monde.
Ben,
donc,
oui,
des
tu mets ton staff en conséquence, exactement.
Avec des bouches à nourrir, avec de l'expertise à faire valoir.
Ouais.
Fait que la problématique est plus grande. Puis je ne voulais pas sous-estimer le fait qu'après, ben, c'est un problème d'argent au niveau des contribuables. Mais ça aussi, c'est une grosse problématique.
Ben, oui.
Là, ça vient de sortir à découvert. Combien de fois ça nous est arrivé puis ça nous a passé sous le nez avec les dépassements de coûts qu'on connaît?
Puis
combien ça nous a coûté? Pourquoi on n'est pas capable de tenir une entente comme celle-là quand ils sont clairement qualifiés pour le faire? Ou encore, s'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas qualifiés pour le faire, sortez et dites-le nous. Pourquoi vous avez pris cette décision-là?
C'est ça.
Si elle est meilleure que celle que vous avez choisi de prendre.
Mais tout ça est caché parce qu'on perd des millions de dollars, puis ben on récompense des entreprises qui sont proches du pouvoir. Rémi Villemur suit dans un instant à Boulevard 102. On va notamment parler de l'étude qui est sortie hier où il y a de plus en plus de gestes d'homophobie, de transphobie et de misogynie dans nos écoles. Comment on pourrait faire pour régler cette situation-là? On réfléchit à ceci avec Rémi Villemur après cette courte pause à Boulevard 102.
La semaine de relâche arrive à grands pas la semaine prochaine, en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez prévu des activités pour la relâche? Ben, sinon, le manoir du lac de l'âge a pensé à vous. Retenez ça, manoir du lac de l'âge. Je vais vous nommer plein d'activités. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire là. Mais vous, retenez manoir du lac de l'âge. Parce qu'après, vous pouvez aller sur le site du manoir du lac de l'âge. Puis là, vous allez avoir encore plus d'informations. Puis vous allez pouvoir même réserver au lacdelage.com. Lac de l'âge, c'est quoi? Allez jouer dehors. On planifie dès maintenant son séjour pour la semaine de relâche. Raquettes, fat bike, patins, randonnée, ça, c'est juste quelques-unes de plein des activités qui sont offertes pour toute la famille sur leur site. Et donc, vous pouvez en profiter. On n'oublie pas non plus l'espace thermal. Ça, c'est toujours inclus. Intérieur, extérieur pour une expérience complète. Vous pouvez également relaxer en vous offrant un soin ou un traitement parce qu'on a un spa, le spa du manoir. Vous soyez un lève-tôt, que vous soyez un couche-tard, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre escapade en vous offrant un petit déjeuner, un lunch, un souper. Il y a le restaurant Le Gourmet, une superbe table, sans oublier le brunch du dimanche et ça, c'en est un à ne pas manquer. Manoir du lac de l'âge, pour la relâche, c'est l'endroit.
À la relâche, au diamant, vivez un voyage à
thème, puis tu pèses supplé.
102-1.
Car Expert HM, Lévis Centreville. Innovation et perfection. Un travail minutieux bien fait dès la première fois, selon exigences manufacturières.
Bienvenue dans nos ateliers haute technologie Car Expert HM Lévis. Soudure, plastique et aluminium. Soudure par point de résistance et rivet haute pression. Redressement de châssis en technique mesure 3D.
Car Expert HM Lévis, avoisinant Lévis Honda. Sortie Lévis Centreville Kennedy. Un service 5 étoiles.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose
des brûler des graisses et développer votre masse musculaire rapidement. Vous vous présentez, on s'occupe du reste. OrangeTheory.com.
Pendant la relâche, les enfants s'amusent à l'International de l'Auto de Québec. Dans la zone familiale Toyota en collaboration avec Mille Pattes Amusement, jeux gonflables, halte garderie et maquillage. Et c'est gratuit à l'achat d'un billet du salon. Ne manquez pas l'événement familial de la relâche. L'International de l'Auto de Québec, du 3 au 8 mars à Exposité, en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. partenaires. Et de Tim est en cours. On prévoit une tempête de prix avec, entre autres, des vacances sell-off tout inclus et des pontons SunTracker 2026 Bass Pro Shops. Jouez sur le gobelet et sur l'appli jusqu'au 22 mars. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli.
L'actualité présentée par le Port de Québec qui vous accueille toujours à port ouvert avec le quart de son territoire dédié à des activités récréo-touristiques et urbaines. Portdequébec.ca. Keep on
rolling, baby. Boulevard 102.1, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement 13h09 sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Avant de passer à la chronique avec Rémi Villemur, je vous rappelle que le 19 mars prochain à 19h au Centre de glace Intact Assurance, c'est la classique annuelle Boulevard qui sera de retour pour une quatrième année. C'est notre Winter Classic. L'an passé, les Icemen de Saint-Isidore sont débarqués en autobus scolaire en pantoufles de Fantex avec un crâne de taureau. Rien de moins, il y avait kidnappé le maire de la place. Let's go! Les boys ont gagné 4-3 en fusillade. Ils étaient bien heureux, ils ont bu juste en masse de bière. Ça tente d'être cette équipe extraordinaire de Ligue de garage qui va venir affronter les gens de Boulevard 102.1. Bientôt jusqu'au 27 février pour t'inscrire. Va sur le blvd.fm dans la section concours. Et cette année, en plus, Pascal, on va offrir des chandails d'hockey pour l'équipe gagnante avec leur logo grâce à Nagano. Alors, merci beaucoup au Centre de glace Intact Assurance de nous accueillir jeudi le 19 mars prochain à 19h.
Puis, juste pour vous montrer à quel point ça tente à l'équipe, c'est en train de se chicaner à savoir qui va jouer.
Exactement.
Donc, qui parmi Boulevard 101 sera sur la glace pour jouer contre vous ou votre équipe? Là. C'est tellement un bel événement, il faut venir. Puis en passant, on attend aussi du monde dans les estrades. Là. Laissez-nous c'est pas tout seul à regarder le hockey, s'il vous plaît.
En plein ça. Venez donner une petite volée au petit coq Mathias Turcotte qui se pense pour un joueur de la Ligue nationale de hockey puis qui se permet de critiquer Connor McDavid.
Il est humble, Mathias. Moi, j'aurais plus envie
critique
de donner...
Critique les joueurs de Team Canada.
Ouais, là, tout le monde est un peu critique dans son salon. Mais mettons, entre Yannick Marceau, Mathias, Maxime... Mathias, je passe en troisième position au niveau de manquer d'humilité. Là.
Venez donner une volée à Max Larouche qui n'arrête pas de critiquer Samuel Montembeau.
Là, il est blessé au bas du corps, on verra.
Exactement, on verra rendu là. On passe immédiatement à la chronique avec Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, qu'on adore et qui a une émission du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins avec Jacinthe Varel de 8 à 10. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, il fait soleil.
Ah oui, hein, c'est le fun quand le printemps commence à s'installer comme ça. Moi, ça me redonne énormément d'énergie. Rémi, très préoccupant ce qui se passe avec nos jeunes. C'est une étude qui a été publiée hier, alors qu'on mentionne que les gestes d'homophobie, de transphobie et de misogynie sont en hausse dans nos écoles. Du vandalisme dans des salles de classe qui servent à des lieux de rencontre pour la diversité, 20 drapeaux arc-en-ciel brûlés ou vandalisés dans nos écoles. Coudonc, on est en train d'élever quel genre de génération, mon Rémi?
Ben, moi, je crois à la conclusion de ce rapport-là. J'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance dans la vie, que d'enseigner à des jeunes. Je l'ai fait jusqu'à l'année dernière. J'enseignais dans des écoles secondaires du public à Montréal, dans des quartiers quand même assez défavorisés. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Ça se passe souvent dans les corridors, entre les classes. Tu entends des trucs, tu vois les jeunes arracher effectivement certaines affaires. Puis, bon, ce que je vais vous dire là, deux choses. Moi, j'ai pris une résolution cette année. Il y a des gens qui décident, par exemple, de se remettre au sport, de mieux manger. Moi, j'ai pris une drôle de résolution. J'ai pris la résolution suivante. Quand quelqu'un, devant moi, me dit qu'il est préoccupé par un phénomène, je l'écoute à une seule condition.
Vas-y donc.
S'il est prêt à mettre tous les facteurs d'explication sur la table. Hein? Parce qu'il y a des faux scandalisés dans la vie. Il y a des gens qui se disent scandalisés par quelque chose, interpellés par un enjeu, puis ils en font le cheval de bataille de leur vie. Puis quand on leur dit, tu sais que ça, ce qui te scandalise, ça s'explique de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Et certaines de ces personnes-là choisissent de regarder juste deux des trois facteurs. Ces gens-là, je ne les prends plus au sérieux. Je ne les prends plus au sérieux parce que, puis vous allez voir où je veux en venir. Là.
Vas-y.
Le rapport en question... D'accord? Ne met pas le doigt sur tous les facteurs explicatifs. On dit quoi? On nous dit, en gros, il y a de plus en plus de contenu misogyne en ligne. On a des influenceurs, on a des masculinistes. Andrew Tate, Andrew Tate, Andrew Tate. C'est vrai. en partie, mais ce n'est pas tout ce qui explique le phénomène. Regardez, je vais vous poser une question.
Vas-y.
Est-ce que ça allait mieux depuis 20 ans dans les écoles?
Si ça allait mieux
Si
depuis
ça allait
20
mieux.
ans, si autrement dit, on est en progression dans les écoles depuis 20 ans,
Ben, est-ce
certainement
que.
pas.
Ben, mais en
Il y
fait,
a
on
plus.
nous dit qu'il y a une recrudescence. On nous a dit que c'était mieux avant et que là, ça revient à un niveau qu'on observait dans les années 80-90. Mais on nous dit dans le rapport que ça s'était amélioré dans les dernières années et là, soudainement, ça se remet à mal aller. C'est ce qu'on nous dit dans le rapport. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit un retour du phénomène. On ne nous dit pas que ça s'est jamais amélioré au fil des ans. Alors, si ça a changé, est-ce que ça se pourrait qu'il faudrait regarder vers le visage de nos écoles? Le profil démographique de nos écoles a changé. Dans certaines écoles à Montréal, 80% à 90% de la population étudiante est issue de l'immigration. Et il y a beaucoup d'immigration arabo-musulmane. Je rappelle que quand il y a eu l'affaire Bedford, qu'est-ce qu'on nous a dit? Des professeurs musulmans empêchent les garçons de jouer avec des petites filles. C'est ce qu'on nous disait.
Ouais,
C'était dans le rapport.
pas les mêmes mœurs et coutumes que nous, en effet. C'est un excellent point que tu amènes.
Moi, je ne dis pas, et là, je veux juste être bien cité, et je veux pas qu'on monte, on fasse du montage avec ce que je viens de dire, là. Je ne dis pas que ça s'explique juste par ça. Je dis, par contre, que c'est au moins un des deux facteurs d'explication. Et je dis que, puis en passant, on a d'autres exemples, hein. On a Raphaël Provost, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu à Boulevard, c'est le dirigeant d'un organisme qui s'appelle Ensemble pour la diversité. C'est quelqu'un qui se trouve à être homosexuel. Ce gars-là, il dit, je fais la tournée des écoles et je leur parle d'homosexualité et je me fais insulter, je me fais lancer des affaires au visage, on me dit, sors de la classe. Et quand on lui demande, c'est qui te demande de faire ça? Il le dit, lui, il dit, ben écoutez, c'est beaucoup, je dois le dire, ça me fait mal à la bouche de le dire, mais c'est beaucoup des jeunes issus de l'immigration. Donc, moi, je refuse que l'on parle de ce sujet-là avec des gens qui refusent, eux, de mettre sur la table tous les facteurs d'explication. Pourquoi? Parce que je doute de leur véritable volonté à régler le problème. Quand on veut régler un problème, on met tous les facteurs d'explication du problème sur la table. Sinon, on ne veut pas le régler, le problème. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu es de l'avis philosophique de ceux qui disent ce n'est pas n'importe quel argument qui se vaut et ce n'est pas n'importe qui peut débattre?
Ben, je comprends pas où tu veux en venir.
Parce que tu dis, moi, je veux parler avec ces gens-là seulement s'ils mettent sur la table absolument tous les arguments qui peuvent être pris en compte dans la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne peuvent pas débattre ou qui ne peuvent pas parler de certains sujets parce que justement, ils se bloquent là-dedans?
Ben, c'est parce que je trouve, moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, tout le monde a droit à son opinion. Moi, j'ai une vision américaine de la liberté d'expression, là. Donc, moi, c'est all the way. Sauf que, soyons sérieux, si quelqu'un refuse de regarder dans une direction et que dans cette direction-là, on a des facteurs explicatifs d'un certain problème, je trouve que cette personne-là a moins de légitimité et elle a moins de pertinence. Son capital intelligible et rhétorique est moins intéressant que quelqu'un qui dit, écoutez, moi, là, je suis vraiment préoccupé par le problème. La preuve, on va tout mettre les cartes sur la table. Fait que regardons. Mais je comprends, en même temps, là, je veux dire, soyons honnêtes, je comprends le danger que ça représente de parler de l'immigration puis de cibler surtout des mineurs qui sont issus de l'immigration. Ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, puis je viens de le dire, ce sont des mineurs. Donc, je comprends, des fois, je comprends les gens de ne pas vouloir en parler. Mais malheureusement, c'est un problème qui s'explique aussi de cette façon-là. Donc, si la véritable priorité, c'est de régler le problème, ben, il faut pouvoir en parler. Puis les exemples sont là. On l'a eu à Bedford, on l'a eu dans des organismes qui luttent contre l'homophobie, qui le disent, on se bute à ce phénomène-là, on l'admet, on le reconnaît. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je regrette, là, mais je demandais à des jeunes des fois, est-ce que vous savez c'est qui Andrew Tate? Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas c'était qui Andrew Tate, là. C'est Andrew Tate, c'est à un moment donné, ça commence à ressembler à un homme de paille aussi. Ah, puis en passant, Andrew Tate, il est musulman. Je peux juste ne pas le préciser aussi.
En effet.
Alors,
Hey Rémi, j'ai pas le choix de faire le saut avec l'autre sujet que tu venais nous parler. On en a parlé aussi avec Antonine de ces demandeurs d'asile-là qu'on a accueillis sans enquête sur eux, sans entrevue, parce que le nœud de ce que tu nous expliques, c'est une immigration massive. Puis ça, c'est pas le kid dans l'école qui a le contrôle là-dessus, mais c'est notre
non.
gouvernement.
Ah, tout à fait. Ah ben oui. Ah ben oui, le jeune, à la limite, c'est une victime de ça parce que
En
lui, il n'est pas
effet.
dans une position où il peut véritablement s'intégrer. Moi, je me mets à la place de ces jeunes à qui j'ai enseigné. qui sont 80% issus de l'immigration dans la classe, c'est que le défi de l'intégration, il est impossible à relever, là. Ils vont faire comme n'importe qui, puis ils vont se rassembler ensemble, puis ils vont parler dans leur langue d'origine.
On ferait la même chose. Transfère-nous les francophones dans le reste du Canada, aux États-Unis, tiens, au Mexique, puis on se retrouve 80% de francophones dans la classe. On va parler en français, là.
Bien, tout à fait, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Là, par contre, ce dont on parle, c'est un véritable scandale. Parce qu'un pays, en bonne et due forme, c'est un territoire muni d'une administration capable de gérer ses frontières. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, moi, je vous révoque le statut de pays.
Ah oui, c'est le minimum. C'est le minimum. Ben, depuis toujours, l'histoire l'a prouvé que c'était le minimum.
Si vous n'êtes pas capable de percevoir de la taxe, vous n'avez pas le statut d'administration qui se respecte. Même chose pour les frontières. Là, ce qu'on nous dit en plus, c'est ouais, ben c'est parce qu'on n'est pas vraiment capable de faire cette job-là. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on se facilite la tâche. Là, on parle de dizaines de milliers de personnes qui ont demandé le statut de réfugié et à qui on n'a pas fait passer une entrevue à un moment donné. Et on leur a juste dit, ben, écoutez, on va leur accorder le statut. Puis ça, on s'en est rendu compte quand on regardait. Et j'ai toujours trouvé ça douteux, moi, le pourcentage de gens qui se faisaient. Parce qu'il faut rappeler le processus, là. Quand vous arrivez aux frontières et que vous demandez le statut de réfugié, on vous l'accorde tout de suite. On vous dit rentrez, installez-vous, puis on va regarder ça plus tard. Bon, moi, je me demande des fois si c'est pas, s'il n'y aurait pas façon de faire, pas un moyen de faire les choses différemment, mais peu importe. Là, le problème, c'est qu'on ne revient pas vers ces gens-là souvent en leur disant, là, viens t'asseoir devant nous, puis on va juste repasser au travers de ton histoire. Toi, tu fuis tel pays parce que tu es homosexuel, puis dans ton pays, tu es persécuté. D'accord, parfait. On ne fait plus ça. Donc, 80% des demandes de réfugiés sont acceptées. Et dans des juridictions semblables à la nôtre, hein, on n'est pas les seuls. Hein, il y a des pays qui ressemblent au Canada, mais c'est 40%. Fait que c'est le double. Fait que là, pour une raison étrange, il y a deux fois plus de gens qui sont véritablement des réfugiés qui arrivent à nos portes. Moi, quand j'avais les chiffres il y a quelques années, je trouvais ça bizarre. Là, on sait pourquoi maintenant. C'est parce qu'on ne fait pas le processus jusqu'à la fin.
Ça veut dire, Rémi, ce n'est pas d'être intolérant que de demander de la rigueur à nos paliers de gouvernement, parce que tu viens de le dire. On en accueille le double, puis là-dedans, il y a un fort pourcentage qu'on accueille les yeux fermés.
Oui, puis je veux dire, c'est encore une fois, moi sincèrement, je n'en veux pas à ces individus-là qui fuient parfois des véritables situations dramatique, je ferais sans doute pareil. Par contre, il y a des gens qui utilisent la voie d'accès vers les réfugiés, ça c'est prouvé, on en a entendu souvent parler. Moi, on m'a raconté des histoires, il y a des députés qui m'ont dit, j'avais dans mon bureau de circonscription, des femmes qui venaient par exemple, accompagnées de leur mari ou de ce qui semblait être leur conjoint, puis qui disaient, moi j'ai fui le Cameroun parce qu'au Cameroun, les homosexuels sont persécutés. Là, le député disait, mais êtes-vous homosexuel, madame? Parce que vous êtes accompagnée de ce qui semble être le père de vos enfants. Non, je ne sais pas trop. Puis là, souvent, ces gens-là sont menacés d'expulsion, demandent aux députés de venir sur la place publique défendre leur dossier. Donc, écoutez, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça existe, d'accord? Puis souvent, ces gens-là ne veulent pas retourner chez eux pour d'autres raisons, mais des raisons qui ne sont pas admissibles pour se mériter le statut de réfugié. Donc, à un moment donné, un peu de sérieux. Sinon, on n'est pas un pays qui se mérite le statut de pays.
Mais Rémi, je pense que ça, c'est la clé pour pas mal de dossiers qu'on trouve difficiles ou qu'on trouve sensibles en ce moment. On est obligé pour certains de se taire pour pas se faire pointer du doigt en disant « vous êtes raciste, vous êtes intolérant, etc. » Mais en faisant ça, on a laissé beaucoup râler et encore plus au niveau gouvernemental quand c'est pas une question citoyenne, mais c'est une question de politicien qui n'ose pas aborder de vrais sujets. Est-ce qu'on va perdre encore une fois ce courage politique-là dans les prochaines années? Comment est-ce qu'on peut rétablir ces discussions-là selon toi?
Bien, moi, je pense qu'il faut être à l'écoute des citoyens. Donc, il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de cette espèce de nonchalance administrative, y compris des citoyens qui sont issus de l'immigration, qui disent « Nous autres, on a respecté le processus. On est rentrés, ça a été compliqué, mais on savait que ce pays-là valait la peine que ça soit compliqué dans ce processus-là. Et aujourd'hui, on est intégrés, puis aujourd'hui, on est fiers de là, puis on voit du monde qui passe comme ça dans les filets du système. » Même ces gens, il y a des sondages qui sont faits au Canada anglais, et dans certaines provinces, la population issue de l'immigration est encore plus en défaveur des seuils d'immigration que la population dite native, ou WASP, là, White Anglo-Saxon Protestant Anything. Non. On l'a, c'est une vraie réalité. Il faut arrêter de mettre les gens dans les catégories. Il y a les Blancs, il y a les Autochtones, puis il y a les immigrants, puis les immigrants sont... Non, parce que quand vous restez ici, vous finissez par comprendre qu'il y a un poids sur le logement, qu'il y a un poids sur les services publics. C'est un fait mathématique. Donc, écoutons les gens. C'est la première étape. Ces gens nous disent quelque chose, ils nous disent c'est assez, il y en a eu trop. Et à un moment donné, l'État doit écouter cette volonté populaire-là. C'est son travail premier.
Chose certaine, Rémi Villemur, on vient de faire un excellent travail parce qu'on vient de parler d'immigration sans rentrer dans les clichés de façon intelligente et structurée. Tu sais comment j'aime tes chroniques, mon ami. Tu sais comment j'aime discuter avec toi. On se reparle jeudi parce que, cher auditeur, Rémi Villemur est avec nous à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h05, 13h10.
Bye-bye.
Salut. Ciao. Rémi, merci beaucoup. Bye. Discussion très sensée que vous allez retrouver sur le blvd.fm, une autre façon de nous écouter avec la web radio. Et si vous n'avez pas téléchargé l'application Boulevard, faites-le rapidement parce que c'est le meilleur moyen de nous écouter partout en province.
Ce que je trouve plate en politique, par exemple, c'est qu'au moment où, mettons, toi, tu es au pouvoir, OK, puis tu essaies d'aborder ces questions sensibles-là, tout de suite, un autre parti qui est dans l'opposition, on va en profiter pour te peinturer dans le coin. Mais c'est de la démagogie politique, finalement, parce qu'un autre parti qui serait au pouvoir aurait à gérer ces discussions sensibles-là, puis on s'auto-cannibalise, du moins on s'auto-censure, puis on oublie d'en discuter, puis ça amène probablement des débordements. Puis après, ben, on doit couper en immigration, puis ça amène à couper comme dans le programme PEC, qui désoriente totalement plein de strates gouvernementales. On parle de la santé, on parlait de l'éducation cette journée-ci. Là, dans l'actualité, près de 1000 personnes qu'on va perdre dans le domaine de l'éducation qui sont qualifiées pour travailler auprès des enfants avec la finalité de ce programme-là.
T'sais. En effet, il faudrait mieux gérer les personnes réfugiées et les demandeurs d'asile en premier lieu. Après la pause, entrevue avec Marie-Ève Schaeffer, journaliste pour le Protégez-vous. Excellente enquête avec des clients mystères sur les résidences pour personnes aînées, les fameux RPA. On va en parler parce qu'il y a des constats très troublants qui en sont ressortis dans un instant à Boulevard 102, à l'émission On en jase. 13h30 minutes. On met jamais de gants blancs, on en jase. On a brassé le maire Leaulien. On a brassé le gouvernement du Québec sur le dossier du tramway. On vient de brasser le gouvernement du Canada sur sa politique en immigration. Et là, on va parler des résidences pour personnes aînées dans quelques instants. La météo, moins 7 degrés généralement ensoleillé pour aujourd'hui. Moins 8 avec de la neige, un 2 cm pour demain. Moins 2 avec de la neige intermittente pour jeudi. Pascal, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on doit suivre?
Oui, il y a plusieurs nouvelles. Pour celle des RPA dont on va jaser le dossier du soleil, juste poser une question au 88-971-1021. Je l'ai fait ce matin dans le Point de Max, puis ça a vraiment été intéressant.
Ah, vas-y donc.
J'ai envie que tu le vives aussi. Est-ce que vous avez pensé à ça? Où vous allez placer vos parents, parce que peut-être que ce n'est pas votre tour, mais qu'est-ce qui va se passer avec vos parents à la retraite? Bien, à la retraite, non, là, mais dans leur période de fin de vie. CHSLD, RPA, maison bigénérationnelle, parce que ce n'est pas toujours un choix. Hein?
Non.
Mais on va en jaser des coûts et des services. Je vais vous dire une affaire, Jeff. Check bien les textos.
Oui, c'est une excellente question. Je sais que la mère des enfants, moi, pour ses parents, veut justement se construire une bigénération et je trouve ça extraordinaire. J'ai des amis, j'ai trois amis qui ont fait ça en ville et puis c'est vraiment fantastique.
Quand la santé le permet, quand tes parents sont encore en santé, c'est extraordinaire. Là, c'est pour ça qu'on parle de soins à domicile aussi.
Vraiment.
Mais je pense que c'est la question pour les prochaines décennies.
C'est une excellente question.
Avec la population vieillissante. Ce matin, il y a eu arrestation d'un homme de 49 ans dans le secteur de Loretteville. Donc, on a procédé autour de 6 heures à son arrestation. Pourquoi? Bien, il a été appréhendé pour infraction liée au trafic de stupéfiants ainsi que vente de cannabis illicite. Il a été libéré sous sommation. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la perquisition du logement de Loretteville? 6 000 $ et plus $ en argent canadien, près de 4 000 comprimés de méthamphétamine, près de 100 grammes de cannabis illicite, près de 8 grammes de cocaïne et plein d'objets liés à la revente de stupéfiants. Alors, enquête réalisée toujours dans le cadre du programme Accès Cannabis. Et c'est une action concertée qui a été mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec et le ministère de la Sécurité publique. Triste anniversaire, c'est 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc 4 ans que Vladimir Poutine envahit le pays de Volodymyr Zelensky. On parle d'un genre de stagnation au front. Ça veut dire qu'on n'est pas allé chercher beaucoup là, de pourcentage de territoire du côté de la Russie depuis quelques années déjà. Par contre, ça a permis une prise de parole de Mark Carney. On a dit qu'on allait continuer et même investir encore plus au niveau monétaire du côté de l'Ukraine. Donc, ce sont des sommes, mais également des blindés qui seront envoyés et on continue pour 3 ans la mission des militaires canadiens pour l'entraînement des militaires ukrainiens du côté de la Lettonie. Alors, ça a été prononcé aujourd'hui comme prise de parole. Trump, lui, va prononcer un discours sur l'état de l'Union ce soir. Course à la chefferie de la CAQ et du troisième lien, finalement, parce que ça va avec. Madame Fréchette juge l'intervention du ministère des Transports du Québec bien étrange. C'est ce qu'on voit dans l'actualité depuis quelques heures. l'aspirante première ministre, hein, juge l'intervention du ministère des Transports sur ses positions au sujet du troisième lien et de la fluidité routière entre Québec et Lévis étrange. Elle dit franchement, c'est pas quelque chose que j'ai vu bien souvent. Je me demande ce qu'il y a derrière ça, derrière cette intervention-là. Et elle l'a dit en entrevue à LCN, donc Transport Québec qui a tempéré les ardeurs de Christine Fréchette quant aux mesures d'atténuation et de la congestion routière qu'elle propose avant un éventuel troisième lien à l'est, et ça a été fait hier. Élection partielle remportée hier par le PQ du côté de Chicoutimi. On a eu une entrevue fort intéressante en ce qui concerne cette nouvelle-là. Tramway de Québec, litige qui pourrait coûter 50 millions de dollars. Donc, entreprise québécoise qui est basée à Montréal et qui propose des solutions intégrées pour le transport en commun ici et à l'international, qui se bat actuellement pour récupérer un important montant et un important contrat qui a été résilié par le gouvernement Legault à la suite du projet qui est tombé entre les mains du gouvernement provincial. Donc, c'est CSIT, l'entreprise québécoise, qui se bat actuellement. Et peut-être une petite nouvelle pour ceux qui aiment bien boire. Québec met fin au monopole de la SAQ. Oh, attention, pas surtout, mais pour la vente de prêt-à-boire à base d'alcool distillé. Alors, le ministre délégué à l'économie et au PME, Samuel Poulain, a annoncé aujourd'hui qu'il va permettre la vente des prêt-à-boire faits d'alcool distillé dans les épiceries et les dépanneurs du Québec. Si vous vous posez la question, c'est pas déjà le cas, mais ça, j'en achète. Ouais, mais c'est à base de malt, habituellement, ce que vous pouvez acheter en épicerie et du côté des dépanneurs.
Ah, c'est très bien comme nouvelle. D'ailleurs, l'entrevue avec Denis Poliquin, tu parlais là, du contrat avec, pour le tramway avec CSIT, va se retrouver sur blvd.fm comme toutes nos entrevues. On va de ce pas rejoindre Marie-Ève Schaffer, journaliste pour Le Protégez-vous. Ils ont fait une enquête avec des clients mystères concernant les RPA. C'est en collaboration avec les coops de l'information parce que 700 résidences pour personnes aînées qui ont fermé depuis 2018. Donc, quel est le constat? Est-ce que c'est difficile de trouver une place dans une RPA? Marie-Ève Schaffer, je vous pose la question.
Oui, dans certaines régions, c'est extrêmement difficile, notamment dans la région de Québec. Là, il faut s'armer de patience parce que les places sont rares, mais elles sont aussi très chères. Dans la région de Québec, c'est le loyer moyen là pour un 3,5, selon les résultats de notre enquête, c'est plus que 2 700 $ par mois. Ce qui est très élevé à titre comparatif à Montréal, le loyer moyen est de 2 100 $ par mois. Donc, on parle d'une différence de 600 $ par mois, ce qui est quand même important.
C'est en raison de l'offre et la demande, j'imagine?
Oui, à Montréal, il y a une très bonne concentration de RPA, mais il y a aussi beaucoup de choix. Il y a des gros groupes de RPA qui sont à Montréal, mais aussi des coopératives, des résidences indépendantes. Et il y a aussi certaines résidences qui sont gérées par l'office municipal. Ça fait une mosaïque parfaite pour réduire les prix, pour avoir une certaine compétition, chose qu'il y a moins en région. Et on le voit parce que les prix sont très élevés.
Si on s'attarde sur la situation dans la capitale nationale, est-ce qu'on peut faire un constat positif ou négatif par rapport aux autres villes qu'on voit dans la province?
Dans la région de Québec, comme je vous disais, les prix sont très élevés. C'est très difficile aussi de trouver un logement. Les journalistes des coops de l'information ont joué les clients mystères. Ils ont communiqué avec des résidences pour voir est-ce qu'il y a moyen de trouver facilement là un logement 3,5 pour un aîné autonome. Et parfois, on s'est fait dire non, il n'y a pas de place disponible, sinon il faut attendre. Donc, la région de Québec, c'est une région où c'est compliqué là présentement de trouver une place.
Autant pour les soins, l'accessibilité et le prix. Mais il y a quelque chose qui m'a hautement titillée. Selon vos journalistes qui ont joué les clients mystères, on a même répondu à certaines demandes, questions et tout ça. Voyons, pourquoi vous posez autant de questions? On a questionné le questionnement, mais pourtant c'est émotif puis c'est pour placer nos parents parfois. Donc, c'est une drôle d'approche, non?
Oui, tout à fait. Cette réponse-là, cette façon de répondre, C'est des cas isolés là pour l'avoir vécu moi-même, pour avoir lu aussi tous les textes de nos visites mystères là. Les cas où justement on s'est fait reprocher de poser beaucoup de questions sont plutôt rares. Généralement là, les gens d'une part les RPA vous invitent facilement à visiter les lieux là, visiter la résidence, voir les installations. Généralement, là, ils sont très ouverts à ça. Ils sont très ouverts à toutes les questions aussi. Donc, des réponses un peu à terme comme ça, ça relève de l'exception, je vous dirais.
La bonne nouvelle.
Ça fait partie cependant de vos conseils, hein, parce que moi, je vais peut-être arriver là un jour à devoir négocier une RPA pour mes parents. Qu'est-ce que je dois faire? Quel bon comportement je dois adopter pour être sûr que mon 2 800 $ par mois soit pas investi dans le vide?
Bonne question. Tout dépend où vous cherchez, mais idéalement, n'attendez pas la dernière minute. Prenez-vous à l'avance pour faire vos recherches, visitez des RPA, si vous voulez prendre, et inscrivez-vous aussi sur une liste d'attente, là, parce que parfois, ça peut s'étirer sur 2 ans. Après ça, une bonne chose à faire, c'est évaluer les besoins de l'aîné, mais aussi son budget. Il y a des experts qui peuvent vous aider, par exemple des travailleurs sociaux ou même des planificateurs financiers là pour les finances. Demandez-vous aussi dans quel type d'environnement l'aîné veut vivre. Par exemple, est-ce qu'il veut aller dans un grand complexe immobilier qui s'apparente un peu à un village, ou il préfère peut-être une plus petite RPA où il y a moins de gens, moins de résidents, moins de services, c'est moins cher, mais l'ambiance est plus familiale. Et comme je vous disais, visiter, c'est le meilleur conseil à donner.
Marie-Ève Chaffé, à quel endroit on peut trouver les résultats de votre enquête?
En fait, vous pouvez les retrouver sur le site de Protégez-vous, mais aussi sur le site des coops de l'information, parce que c'est une enquête conjointe là, entre les deux groupes de médias.
Merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous à l'émission On en jase aujourd'hui, d'avoir parlé de cette excellente enquête de clients mystères. Je suis certain que ça aide beaucoup nos auditeurs. En tout cas, moi, vous m'avez beaucoup aidé avec vos recommandations.
Un grand plaisir. Merci à vous.
Merci, au revoir. C'était Marie-Ève Chaffé, journaliste pour la revue Protégez-vous, en collaboration avec le Coop de l'information. Ils ont fait une enquête sur les RPA, 600 RPA qui ont été fermés depuis 2018. Les places se font rares ici en capitale nationale. Vous allez pouvoir réécouter l'entrevue sur le blvd.fm pour être bien renseigné.
Sur la route, intervention policière du côté de la route de l'aéroport, c'est complètement barré par la police. Si vous avez allé dans le secteur, bien, on vous dit évitez-le pour l'instant.
Dans un instant, on conclut l'émission avec Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. L'intelligence artificielle, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on maîtrise bien ça dans nos entreprises? On va avoir la réponse à cette question dans un instant à Boulevard 102, l'émission d'En jase.
Compte l'actualité. Boulevard 102.1.
Il est présentement 13h46. Va suivre notre émission On en jase, émission d'actualité. Tu connais les meilleures nouvelles avec nous et on t'offre des excellentes analyses. Eh bien, c'est Denis Gravel par la suite QC avec le retour de Gravel avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. 16h30, manquez pas ça. Vous êtes fâchés comme moi de la fermeture des patinoires extérieures? Le maire Marchand va être en studio.
2 patinoires qui ferment.
Puis pendant ce temps-là, on déneige les pistes cyclables qui ont moins d'utilisateurs que les patinoires. C'est ça qui me fâche, Pascal.
Les deux les moins utilisés.
C'est ça qui me fâche. Et d'ailleurs, parlant d'être fâché, moi, je suis fâché après le maire Lehoulier qui coûte plein de millions de dollars à la ville de Lévis.
Ça, c'est pas drôle.
Puis qui s'est sauvé en valeur en disant « faudrait m'ériger une statue, là, j'en mets, là, vous comprendrez très bien, je fais une image. » Eh bien, on a interviewé Benoît Forgès-Giasson, conseiller du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10, concernant ce moratoire et des poursuites possibles qui pourraient aller jusqu'à 30 millions de dollars pour la ville de Lévis. Ça va être disponible sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Intelligence artificielle, Pascal CV, on en parle tout le temps. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant. Mais là, j'ai été très surpris d'apprendre, via un sondage du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, que 40 % des jeunes de 20 à 30 ans se sentent dépassés par l'intelligence artificielle. Moi, Pascal, je pensais que c'était mon oncle Jeff à 46 ans qui était dépassé par ça. Ben non! Nos jeunes aussi sont dépassés. Et pour en parler avec nous, on a Pierre Graff, président directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Pierre, comment vas-tu?
Très bien. Bonjour, Jeff. Bonjour, Pascal.
Pierre, est-ce que tu as été surpris, toi aussi, de cette donnée-là, de votre sondage? Moi, je pensais que les jeunes d'intelligence artificielle, ils comprenaient ça, tout allait bien, puis il n'y en avait pas de problème.
Ça va tellement vite, Jeff.
Ah, ils vont gérer nos entreprises avec ça. On va devenir les plus productifs au monde. OK, je m'emballe.
Non, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Parmi le sondage, il y a beaucoup de résultats qui nous ont surpris. Celui-là, c'en était un. On l'a vu, il y a une certaine inquiétude en ce moment, à la fois, je dirais, pour les gens qui veulent rentrer sur le marché du travail, parce qu'on voit que ceux qui sont le plus touchés, c'est les jeunes bacheliers, donc les gens qui sortent de l'université, qui ont de la misère à rentrer dans le secteur tertiaire. L'une des raisons, c'est que beaucoup de postes d'entrée sont supprimés en raison de l'arrivée de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, ben oui, il y avait à peu près 40% des jeunes qui ont une certaine inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle parce que, justement, on voit que certaines entreprises font des coupures. Et dans ce temps-là, ben, c'est sûr que plus on est jeune, généralement, plus on est exposé à ce genre de situation. Et c'est là que vient l'inquiétude. La bonne nouvelle, c'est que la majorité a quand même de bonnes perspectives par rapport à leur carrière pour le moment, puis on va espérer que ça demeure.
Mais je comprends que c'est un outil, puis on ne devrait pas en avoir peur, on devrait apprendre à bien l'utiliser, on entend ça aussi dans les écoles. Mais moi, je suis de la génération Wikipédia, là. C'était le démon en personne dans nos travaux, et on était capable de déceler qui l'avait utilisé, il n'y avait pas grand-chose de fiable. Puis j'ai toujours cette appréhension-là de me dire, intelligence artificielle, oui, mais ça ne remplace pas l'humain. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui se disent... Moi, je veux aussi employer des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes et d'agir par eux-mêmes et non juste se fier sur, par exemple, la rédaction faite par l'intelligence artificielle.
Bien, en fait, je pense que c'est plus une position qu'on doit adopter par rapport à l'intelligence artificielle puis de voir ça comme un complément parce que là, on parle notamment d'IA générative, mais il y a aussi plein de logiciels qui utilisent l'IA. Puis il faut voir l'IA comme un tout puis que plusieurs outils peuvent utiliser l'IA puis peuvent aider justement les personnes à en faire un usage éthique et responsable. Nous, ce que nous démontre le sondage, en revanche, c'est que les usages qui sont faits de l'IA, il y a comme un décalage justement entre cet usage qui est fait par les jeunes professionnels, donc les moins de 35 ans, et le cadre organisationnel des entreprises. Et ça, ça crée une sorte de zone grise qui est bonne pour personne. Tu as nommé notamment la productivité. C'est pas bon pour la productivité que quelqu'un se dise, tiens, je l'utilise, puis je le dis pas à mon boss. C'est ce qui sort aussi dans le sondage. Ça sort assez fort quand même. Oui. 44% des jeunes qui l'utilisent sans le mentionner justement à leur hiérarchie. Donc ça, ça peut entraîner vraiment des enjeux organisationnels.
Puis pas que c'était proscrit par le boss, mais il est juste pas au courant.
C'est une zone grise. Donc je pense que il y a au moins une première chose à faire pour les entreprises, c'est de dire, si on n'a peut-être pas des politiques en intelligence artificielle, tout le monde s'en date pas, il devrait, mais au moins dire on est ouvert à ce que vous l'utilisiez, mais faites-le d'une manière éthique et responsable parce qu'il y a des obligations légales, parce que l'intelligence artificielle peut avoir des hallucinations, puis il faut baser nos décisions sur des choses qui sont justes, qui sont vraies. Oui. Puis de la même manière, il y a aussi des enjeux, par exemple, de sécurité des données. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui peuvent émerger et ce sondage le met clairement en exergue.
Oui, parce que je parlais de 40% qui sont dépassés, mais il y a aussi 66% des gens qui l'utilisent sans encadrement. Donc, la compagnie n'a pas mis un cadre strict pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on continue comme ça, Pierre, on va frapper le mur de l'intelligence artificielle au lieu de que ça devienne un outil de performance pour nos entreprises?
Bien, c'est sûr que le décalage que je mentionne, ça crée un frein clairement parce qu'on a une génération qui est quand même, bien, comme toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, là on couvre peut-être les 35 ans, c'est les générations fin Y, début Z, puis les alpha qui rentrent sur le marché du travail. Forcément, ils sont plus intéressés par la technologie. La technologie du moment, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, si l'entreprise n'a pas cette proactivité de dire « Je suis ouvert à ce que vous l'utilisiez, faites-le d'une certaine manière. » Est-ce qu'il y a des politiques écrites? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont juste partagées de manière orale? L'essentiel, c'est au moins qu'on en parle pour qu'eux puissent justement utiliser cette curiosité à bon escient, puis élever leur niveau de productivité sans que ça devienne évidemment un réflexe qui ralentit leur carrière. On le voit d'ailleurs avec ce qu'on appelle d'ailleurs les juniors qui sont IA dépendants.
Ouais.
Pascal le mentionnait un peu, ça peut devenir un handicap à long terme. Et c'est pour ça qu'on gagne tous justement à avoir un discours qui est plus clair, qui est plus transparent sur l'usage d'intelligence artificielle dans le milieu de l'entreprise.
C'est pas le sujet de la chronique, c'est pas le sujet de l'entrevue, mais effectivement, ils sont en train de répertorier des grandes lacunes au niveau du cerveau, des connexions juste avec nos réseaux sociaux. Fait qu'imaginez avec l'intelligence artificielle. Pierre Graff, si vous aviez un conseil à donner à un employé et un conseil à donner à un employeur à ce niveau-ci, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce serait lesquels?
Ce serait vraiment la transparence. Des deux côtés. Si on prend l'exemple d'un jeune professionnel qui utiliserait l'IA sans en informer vraiment sa hiérarchie, comme j'ai dit, avec la nouvelle loi 25, il peut s'exposer justement à des enjeux légaux parce que certaines décisions qui sont majoritairement prises suite à l'utilisation de l'IA, ça doit être mentionné légalement, par exemple. Donc, il y a une exposition. De l'autre côté, si la hiérarchie dit « Ah, ben, il travaille très bien, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est fait par l'IA, puis ils ne le savent pas, il pourrait y avoir un bris de confiance, puis c'est bon pour personne. » Et de la même manière, ben, si les gestionnaires ne prennent pas la peine de dire « Tu peux utiliser l'IA, mais fais-le d'une manière éthique et responsable, fais-le d'une manière qui va te permettre aussi de te développer, que ce ne soit pas un réflexe qui t'empêche de réfléchir, ben, je pense que tout le monde serait gagnant. » Donc, la transparence des deux bords, je suis persuadé que c'est ce qui nous amènera justement à être plus productifs. Puis avoir une utilisation de l'IA qui est vraiment bénéfique pour les entreprises.
Pierre Graff, tu es président, directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec. Je m'en voudrais de ne pas terminer l'entrevue en te posant la question. Comment vous vivez depuis vendredi la décision de la Cour suprême aux États-Unis d'annuler les tarifs de Donald Trump? Mais là, un Donald Trump qui dit 10% se réveille samedi matin à 15, puis finalement met 10. Est-ce qu'on est encore dans cette fameuse imprévisibilité?
Pendant un moment, ça a été un soulagement, mais on se doutait bien avec l'annonce du fameux plan B que quelque chose d'autre allait arriver. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont juste écœurés d'entendre parler des tarifs.
Sont résilients, par contre.
Je pense qu'on gagnerait, en fait, à arrêter d'en parler. Puis lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui entre en vigueur, il y a un bandereau dans les médias qui indique qu'il y a quelque chose qui est entré en vigueur et qui va les toucher, parce qu'au final, ça nuit vraiment, je pense, à la santé mentale de nos entrepreneurs, des employés également. Et malheureusement, comme je l'ai déjà mentionné par le passé, ça va continuer encore pendant certainement 3 ans. Rien n'a changé. En fait, il y a très, très peu de compagnies qui en bénéficient. Certaines, en fait, sont passées de 35 à 10 ou 15%. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut garder. Puis je pense que vraiment, la renégociation de la CEUM va vraiment nous permettre d'y voir plus clair. Ça, ce sera à l'été. Puis ça va sûrement s'échelonner sur une longue période. Alors, il faut être patient et espérer qu'on n'ajoutera pas plus d'imprévisibilité pour nos entrepreneurs.
Pierre, merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci. On se reparle prochainement. Je vous rappelle que le retour de Gravel suit à l'instant même avec Bruno Marchand. C'est de 14h à 18h. Bruno Marchand sera présent à 16h30. Mathias Turcotte va aussi venir faire son tour pour vous parler des travaux de Tramcité. Donc, ça sera une émission très locale, très actualité municipale. Pascal CV, on se dit à demain, nous.
Merci, à demain.
À demain. Gravel dans le